C'est un plaisir pour moi d'être là devant vous pour témoigner ce que le Seigneur a fait dans ma vie. Je ne témoigne pas pour moi. Je témoigne pour l'édification de l'Église. Et j'espère que ce que je vais dire pourra vous apporter la preuve combien Dieu nous aime. Bon, une petite présentation. Je suis Félix Mbaye Kalombo. Je suis né d'une famille de deux enfants, mais nous avons grandi à quatre parce que le grand frère de mon père, qui est mort très jeune, avait laissé deux autres enfants. Et mon père a eu à élever les enfants de son frère comme ses propres enfants. Et d'ailleurs, nous, on ne savait même pas qu'on n'était pas du même père. Hein? Et c'était magnifique. Je voudrais commencer par dire que ici dans la présentation, je vais donner un fait précis qui s'est situé dans mon temps où je n'étais pas encore chrétien. Et puis après, j'ai parlé de ce que Dieu a fait ensuite pour moi. J'ai vécu avec mes parents jusqu'à l'âge de 14 ans. Et puis, mon grand-père, le cadet de mes grands-parents paternels, que j'avais visité pendant les vacances, a demandé à mon père, « Non, envoyez-nous Félix chez nous. » Bon. Lui, il était pasteur. Et sa femme, une prophétesse aux trans. Et voilà comment je suis allé vivre avec mes parents, mes grands-parents, qui étaient chrétiens. Chrétien du renouveau, parce que au Congo, on ne parlait pas à cette époque-là beaucoup de Saint-Esprit. Et là, c'était une église qui parlait de Saint-Esprit. Et eux, ils ont commencé à me parler de Dieu, sans faire de moi chrétien, parce qu'il fallait suivre une certaine formation pendant un certain temps pour qu'on puisse vous te déclarer chrétien. Et j'étudiais à plus de 200 km de l'endroit où vivaient mes grands-parents, dans une école officielle. Et j'étais en sixième primaire. Au dernier trimestre de ma formation, j'ai vécu quelque chose d'extraordinaire, de pénible. On m'a attrapé un certain dimanche par mon oncle paternel et la fille aînée de ma tante paternelle que j'ai fréquentée. Et cette fille aînée a déclaré que moi j'étais sorcier. Un petit enfant comme ça, sorcier, je veux bouffer qui? Parce que quand on parle de sorcier sur le continent africain, c'est quelqu'un, on ne peut pas jouer avec lui. Il peut bouffer tout le monde en une seule minute. Et quand on t'accuse de sorcier, comme je suis souvenu, c'est comme ma grand-mère me disait, un sorcier, il est mauvais, tout ça. On me dit, moi, je suis mauvais, un sorcier, c'est pas possible. Alors, je cours vite chez mon oncle, je dis, voilà, la fille de votre tante dit que moi, je suis sorcier. Ah bon, il a dit ça, on va voir. Mais le jour où on va voir, c'était un dimanche matin. Alors, mon oncle a pris la part de ma cousine et je me suis retrouvé devant une dizaine de personnes, les vieux. Alors, il m'a demandé d'avouer que moi, j'étais sorcier. J'ai dit non, je ne suis pas sorcier. Non, non, vous êtes sorcier. Alors, là, ma cousine confirme que j'ai volé sa ceinture. Et je suis allé donner ça à mes amis sorciers, elle va mourir. Et c'est un féticheur qui lui a confirmé ça. J'ai dit, non, je ne connais pas ça. Alors à ce moment-là, mon oncle, là, ce gaillard-là, il m'a torturé toute la journée. Je n'avais pas mangé, je n'avais pas bu. Il m'a vraiment torturé en présence de tous ces gens qui ne pouvaient rien dire. Lorsqu'il était vers 17 heures, là je ne bougeais plus parce que j'étais abattu. gaillard de 14 ans et demi devant tous ces sorciers. C'est eux qui étaient sorciers. Et finalement, une idée m'est passée par la tête. J'ai dit, bon, oui, vraiment, je suis sorcier. Ah, voilà, il a dit qu'il est sorcier. Bon, et alors, vous pouvez sortir la ceinture de votre soeur? J'ai dit, oui, il n'est pas ici. Il est chez mes amis là, dans la forêt quelque part. Et nous devons aller le chercher. Et... nous allons. J'ai dit non, on ne peut pas partir tout le monde. On part avec mon oncle ici. J'avais dit ça, je ne sais pas d'où était venue l'idée. Hein. J'ai dit si je pouvais me trouver en face de lui seul, je peux fuir. Et c'est ce qui est arrivé. Arrivé au début de la forêt, j'ai dit tu vois les gros arbres là? Il dit oui. C'est là où il y a tous vos effets sont là-dedans. Laisse-moi partir. Là, il faisait déjà 18 heures. Hein. Là-bas, 18 heures, c'est comme en hiver ici, il commence à faire déjà noir. Il pleuvinait un peu. Alors, il dit, je vous accompagne. Je dis, non, vous, comme vous, vous n'êtes pas sorcier, vous restez ici parce que si mes amis vous voient, ils vont vous bouffer. Voilà comment je fuis la nuit dans une forêt. Mais je crois que, à un certain moment, je n'étais pas là. J'étais mort parce que, je ne me souvenais plus de rien, mais quand je me suis réveillé, il était peut-être 2h, 3h du matin. Je suis dans la forêt. Donc je suis tombé, évanoui. Comme il pleuvinait un peu, je pense que c'est cette pluie-là qui m'a réveillé, la fraîcheur et tout ça. Alors quand je me suis réveillé, je me suis mis à courir parce que, mon vieux, je croyais que les types étaient toujours là derrière moi. Bon, bref, le lendemain, je me suis retrouvé à l'hôpital. Et mon directeur de l'école, qui était un Belge, qui a appris que j'étais l'hôpital, il est venu me voir. Il m'a trouvé dans cet état-là. Il me dit, mais c'est qui ça qui vous a fait ça? J'ai dit, je ne connais pas. Je ne connais pas ces gens-là. Je n'ai pas dénoncé ces gens-là. Et on m'a soigné. Et puis j'ai terminé quand même mon année. Et pendant les vacances, je suis allé voir mes grands-parents qui me disent, les chrétiens là... Avant même que je n'aie pareil, ils me disent, mais qu'est-ce que tu as vécu là? Est-ce qu'il y a quelque chose qui t'est arrivé? Je dis, quelque chose comme quoi? Parce que ma grand-mère, la femme de mon grand-père, là, lui, il voyait tout, je ne sais pas comment il faisait. Hein. Alors, j'ai raconté ça. Ils disent, on sait, ce sont ces gens-là qui sont des sorciers, qui ont vu quel avenir tu auras. Ils voulaient tout simplement mettre fin à ça. Mais les prières de mon Dieu, nous avons beaucoup prié pour vous. Waouh, j'ai dit, bon, d'accord. Je termine mon année. Là, je vais aux humanités. Et ça faisait 2 ans que je n'avais pas... J'ai dit ça pour montrer, à un certain moment, je me suis retrouvé devant un dilemme. Est-ce que la sorcellerie existe ou n'existe pas? Alors, je vais voir mon père, que je n'avais pas revu depuis 2 ans. Et je lui raconte ce qui m'est... Non, avant de lui raconter, j'ai dit, est-ce que vous avez appris quelque chose qui m'était arrivé pendant tout ce temps? Il dit, non. Quelque chose de comment? Moi, j'ai dit, quelque chose de très mauvais. Il dit, moi, c'est quoi? J'ai dit, non. Pour te dire, il faut que tu me jures que tu ne vas pas te fâcher. Ah non, non. Alors, finalement, il me dit, moi, je ne me fâche pas, dis-moi. Et je lui ai tout raconté. C'était dans la soirée. Au moment de dormir, il dit à ma mère, toi, tu ne dors pas ici aujourd'hui. Il dit, pourquoi? Parce qu'on va dormir à deux. Nous avons des choses à nous dire. Moi, j'ai dit, mais quelles choses on va se dire la nuit? Bon, à ce moment-là, il y a un enfant qui va aux humanités. Il va dormir dans le lit de son père. Mais j'ai dormi dans le lit de mon père. Et chaque fois que je me réveillais la nuit, il était en train de pleurer. Il a pleuré toute la nuit. Et moi, je lui dis, mais comment? Tu pleures parce que je t'ai raconté mon histoire. Ah, il m'a trompé. Non, je cherche la cigarette. Non, toi, tu peux dormir. Et vers 5h du matin, il me réveille. Il dit, bon, écoute, maintenant, je vais t'avouer quelque chose. Moi, je pleurais toute la nuit. Mais à partir de maintenant, je ne veux pas pleurer. Mais dis-moi la vérité. Est-ce que ce que tu m'as dit, là, c'est une vérité? Je dis, oui, c'est une vérité. Bon, qu'est-ce que toi, tu veux que je fasse de ce genre-là? C'est-à-dire son frère et l'enfant de sa sœur. Il dit, mais qu'est-ce que toi, tu es capable de faire? Il me dit, si tu veux qu'ils meurent aujourd'hui, ils doivent mourir à cette minute. Je veux qu'il devienne aveugle. Bon, 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 bon. Je dis, mais comment ça? Comment est-ce que tu peux faire ça? Il dit, ça, c'est pas ton problème. Moi, je dis, non, alors tu ne feras rien. Alors, tu m'as menti. J'ai dit, non, je t'ai dit la vérité, je n'ai pas menti. Alors, voilà. Il m'a dit, bon, à partir d'aujourd'hui, comme toi, tu n'as rien dit, j'ai dit qu'à partir d'aujourd'hui, ton oncle là, son travail qu'il faisait là, est terminé. Et jusqu'à sa mort, il ne travaillera plus. Bon, moi, j'ai pris ça pour une blague. Il dit, tu dois écrire ça. Moi, j'ai écrit. Eh bien, deux semaines après, alors que j'étais à l'école, j'ai vu mon oncle là venir me chercher parce que je devais l'amener chez les syndicalistes parce qu'on l'avait chassé de son travail. Waouh! La sorcellerie, ça existe, ça n'existe pas. J'ai dit non, non, mais on ne va pas voir les autres, va voir ton frère, mon père. Moi, je lui ai dit ce que tu m'avais fait. Ah, il a fui. Bon, ça c'est pour dire que quand on ne connaît pas Dieu, et quand vous avez dans la famille les gens qui prient Dieu, et que vous mettez dans les mains de Dieu, vous pouvez toujours être sauvé. Ça c'était bien avant. Après, le monsieur a terminé. En 1960, l'indépendance est arrivée au Congo. Le Congo est devenu indépendant. Et j'étais parmi les jeunes gens qui étaient sélectionnés pour aller faire les études à l'étranger parce que les professeurs belges qu'on avaient rentré chez eux. Moi, j'étais envoyé aux États-Unis. J'ai eu à faire mes deux dernières années de secondaire là-bas. Et puis, comme je venais d'une école de cadets de l'armée, je suis allé à l'école militaire que j'ai terminée. Et puis, on me dit, qu'est-ce que vous allez choisir comme spécialité? Moi, je dis les Rangers. Alors, on m'a envoyé à Fort Benning, dans la Géorgie. J'ai fait les Rangers là-bas. Alors, je suis sorti de là. Je suis rentré au Congo en 64. Et là, j'ai fait aussi des parachutistes. Mais quand deux ans après, en 65, Mobutu va prendre le pouvoir. Le président, mon ancien commandant-chef, il devient président. Et deux ans après, moi je dis, bon, je lui écris une lettre, une requête, pour lui demander s'il pouvait m'autoriser de rentrer étudier les droits à l'université à Kinshasa. Alors je donne la lettre à mes autorités hiérarchiques, tout d'abord mon commandant de bataillon, qui met un avis défavorable. L'état-major général qui met un avis défavorable, c'est pas possible. Le monsieur, là, il vient d'arriver il n'y a pas deux ans, et il commence à rentrer aussi à l'école, il va travailler quand? Mais quand ça arrive chez le président, qui était le ministre de la Défense, il met un avis favorable. Et moi, je rentre faire mes études de droit, et je termine en 70. Et là, il dit, tu ne vas plus rentrer chez le paracommando, tu vas devenir magistrat. Il me nomme magistrat. Je crois que c'est là le début de mon calvaire. Je suis magistrat, tout content, mais je dois dire, entre parenthèses, qu'une année avant que je termine mes études universitaires, j'avais eu déjà le calcul rénal. On a découvert que j'avais un calcul rénal. D'emblée, le président de la République, il dit, je vais recevoir ces deux, parce que nous étions à deux militaires de carrière qui étaient juristes dans l'armée à cette époque-là. Et le président dit, je dois les recevoir, les deux, mon ami et moi. Voilà là. Les tribalismes aidant, le chef qui devait nous amener chez le président, il me trompe, moi, il dit, le président vous attend lundi matin. Alors que le président nous attendait le samedi. Le samedi, il a amené celui-là et pas moi. Et ne pas répondre à une invitation du commandant suprême des forces armées, ça, c'est une infraction dans l'armée. Je ne pensais pas qu'il allait me laisser. Je ne pensais même pas qu'il allait encore me nommer magistrat. Mais il m'a quand même nommé magistrat. Mais j'expliquais aux autres là que le jour où je serai face à face avec le président, je vais lui raconter ce que vous avez fait là. Et là, ça a créé une peur parmi eux. Ils m'ont dit, cet homme ne peut pas rester ici, à Kinshasa. Je devais être envoyé à l'intérieur pour travailler en province. Alors que je souffrais de calcul, les interventions de mes médecins, ils n'ont pas voulu entendre de ça. Ils m'ont envoyé quand même. à l'intérieur. Loin, là où il n'y avait même pas d'urologue. Mais finalement, bon, j'ai eu une crise de calcul une fois. 2 ans après, je suis rentré à l'hôpital à Kinshasa. On devait m'opérer. On a dit que le calcul était déjà gros comme ça. Mais les jours on devait m'opérer, et on a fait le dernier examen, on a cherché mon calcul dans le rein, on ne l'a plus trouvé. Le médecin me dit, mais oui, on ne voit pas. Non, non, moi je dis, trouvez-moi mon calcul, parce que j'avais tellement mal que je disais, mais si ce calcul se trouve dans mon œil, il faut crever cet œil pour le faire sortir. Et quand ils me disent qu'il n'est pas là, je dis, non, ce n'est pas possible, mais s'il revenait, ben, 24 heures après, on l'a trouvé, il est sorti de rein. Il s'est bloqué entre le rein et la vessie sur l'urètre là. Et l'urètre était en train de gonfler. Alors on est dans les recherches là. On l'appelait calcul de Bandaka, la province dans laquelle je travaillais là. Et ça, c'était aussi un miracle. Et après ça, bon, il y a eu beaucoup d'autres miracles que Dieu a fait pour moi. Parce que dans l'armée, j'ai évolué en tant que magistrat. J'étais déjà devenu un officier supérieur de l'armée. On m'appelait colonel. J'étais en charge d'une grande juridiction militaire, mais en 78, en 78, Mobutu fomente une histoire. Il dit qu'il y a certains officiers qui voulaient lui faire un coup d'État pour prendre le pouvoir. Et j'étais parmi eux. Alors que je ne savais rien. Bon, je suis arrivé, on m'a convoqué, je suis arrivé à Kinshasa. Et j'ai dit, entre parenthèses, que beaucoup de mes amis ont été tués pour cette affaire-là. Les autres emprisonnés. Moi, j'étais arrêté, mais on m'a libéré dans la même nuit, je ne sais pas pourquoi. Mais on m'a chassé quand même de l'armée. Chassé de l'armée, on me dit, tu ne dois pas quitter la ville de Kinshasa. Tu ne dois pas chercher de travail ailleurs. On te payera pendant 6 mois. Et après, bon, tu pourras te débrouiller. Mais tu ne quittes pas la ville de Kinshasa. On ne m'a jamais payé un seul mois. Et c'est alors que j'ai compris pourquoi Dieu m'a envoyé faire mes études de droit. Parce que si je n'avais pas fait le droit, qu'est-ce que je serais devenu? Parce que mes autres camarades qui avaient fait les écoles militaires en Belgique, en France, en Angleterre, en Amérique, ils sont restés là. Parce qu'ils connaissaient que les affaires militaires. Ils pouvaient encore faire quoi? Et alors là, moi je dis, mais je vais me reposer un peu, on verra. Mais je vais aller m'inscrire pour devenir avocat. Mais avant de devenir avocat, on a passé un moment de vraiment sombre. Le peu d'argent que j'avais avant, j'avais mis dans les travaux de finissage de notre maison à Kinshasa. Et d'ailleurs, cette maison a aussi une histoire. Lorsque j'avais eu cette passerelle pour construire, j'étais encore à l'université. Et j'ai dit à mes amis, venez prendre aussi des parcelles parce qu'on vend là. Mes amis me disaient, non, on a une carrière. Dans 10 ans, 15 ans, on aura de l'argent. Directement, on achète une maison. J'ai dit, bon, d'accord. Alors, moi, j'ai commencé à construire petit à petit. Mais quand on nous a chassés là, waouh, les autres étaient sur la rue. Hein. Moi, je suis entré dans ma maison, presque achevé, mais il n'y avait pas encore d'eau, il n'y avait pas d'électricité. Mais c'était quand même bien. Alors, dans cette maison où nous n'avons plus rien comme argent, il s'est produit pour moi, j'ai compris que c'était un miracle par rappeler, parce que dans la cour a commencé à pousser des champignons. Il y avait un gros arbre là dans ma parcelle et qui donnait des chenilles. Ça goûte bien. Je ne sais pas si vous avez déjà eu l'occasion de. Si vous n'avez pas encore goûté, la prochaine fois que je reviendrai du Congo, je vais amener un peu des échantillons. Eh bien, voilà, nous avons des champignons, nous avons des chenilles. Mais alors, oh, on a mangé. Et Mais les jours où je suis devenu avocat, et les tout premiers dossiers que j'ai traités et que j'ai finalisés, waouh, on m'a donné de l'argent. J'ai dit, mais qu'est-ce que je faisais dans l'armée, vraiment? Il y a de l'argent ici. Alors j'ai pu mettre l'électricité dans ma maison, j'ai envoyé de l'eau dans ma maison, et puis les enfants étaient contents et tout ça. Waouh! Mais par après, l'arbre qui donnait des chenilles a séché. Après, il n'y a plus jamais eu de champignons dans la parcelle. Mais si ce n'est pas un miracle, c'est quoi ça? Bon, je suis avocat. Je m'installe là. Quelques sociétés viennent me voir. C'est les gens qui me connaissaient avant, quand j'étais magistrat. Alors, ils me disent, bon, est-ce que vous pouvez aller dans telle province? Parce que nous avons des sociétés là-bas, vous pouvez nous représenter. J'ai dit, mais c'est une aubaine, mon vieux. Un cabinet d'avocats, ça, les sociétés, ça ne fonctionne pas bien. Alors là, j'avais au moins quatre sociétés, plus l'église catholique, qui était, dont j'étais avocat conseil. Et ça fonctionnait comme ça pendant 2 ans. Et puis, l'autre jour, je reçois un message du gouverneur de la province, qui vient même me voir, en me disant, non, le président de la République vous demande de lui écrire une lettre pour dire que vous lui demandez pardon, comme ça, il va vous pardonner pour reprendre l'armée. Et j'ai dit au gouverneur, non, vous blaguez ou quoi? Mais pour partir de l'armée, j'ai une ordonnance, je lui fais voir l'ordonnance. Je suis parti de l'armée parce qu'on m'a dit qu'il y a suppression d'emploi. Mais moi, je vais demander pardon pourquoi. C'était un piège qu'on m'avait tendu. Si j'avais écrit la lettre, il pouvait brandir ça, voilà, cet homme, il sait pourquoi, ce qu'il faisait contre le président de la République, il a demandé pardon. Mais j'avais refusé, jamais, et ils m'ont cherché sur ce terrain-là. Mais quand j'ai refusé, il y a eu des conséquences. Les services de sécurité sont venus demander à toutes les sociétés qui étaient dans mon cabinet de quitter mon cabinet. Ils sont partis. Je suis resté avec les prêtres. Et ils ont dit, nous partons pas. Et après, bon, bah, écoute, vous n'avez pas de société, il faut vous débrouiller pour avoir des clients. Mais quel client? J'étais dans une province qui n'était même pas tout à fait développée, où beaucoup de problèmes qui étaient là, c'était des problèmes de bêtes, hein, de gros bétail, les bœufs et tout ça. Et les gens venaient me voir quand mon père était mort, il a laissé autant pour moi. J'ai dit, mais qu'est-ce que tu veux? Vous avez combien pour commencer les dossiers? Ah non, nous n'avons rien, faites ça et puis on va voir après. J'ai commencé à faire ça. Oui, évidemment, j'avais quelques petites affaires pénales, mais les affaires pénales, ça ne donne pas grand-chose par rapport aux affaires civiles, surtout quand vous avez été avocat conseil de société. Mais avec ça, ça a évolué quand même. À un certain moment, j'ai dit aux gens là, vous vendez vos bêtes et vous me payez mon argent. Je choisissais les affaires. À un certain moment, j'ai dit, bon, écoute, vous me payez une partie en argent et une partie en bêtes. Petit à petit, je suis devenu éleveur. Ah oui, mine de rien, j'avais un kraal qui comptait plus de 100 têtes de bétail. Ah oui. Et ce n'est pas tout, chez les prêtres catholiques, que je défendais aussi leurs affaires, ils avaient un kraal là-bas. Et là, j'ai eu d'autres bêtes là-bas aussi. Et vous savez quoi? On m'a donné 3 bêtes. 3 femelles, les jeunes, déjà croisées, avec un mâle. J'ai dit non, prenez quand même le mâle, donnez-moi une jeune femelle. Ils ont accepté. Donc, j'avais 4 bêtes chez le prêtre. Alors, la première année, les 4 bêtes ont donné chacune une petite femelle. Alors, quand vous avez des femelles, c'est que vous êtes vraiment bien riche, hein, parce que les femelles. Alors, ils me disent, mais quel est ton secret? Pourquoi est-ce que tes bêtes ne donnent que des femelles? Ils ont fait comme ça 3 fois. Alors, c'était bien, mais par après, le gouvernement a fomenté une histoire pour dire que ce n'était pas le crâne que j'avais, mais j'avais des centres pour la formation des militaires. Ils sont en train de m'écraser là. Ils ont assassiné, ils ont tué beaucoup de bêtes, sauf celles qui restaient chez le prêtre. Mais ça, ce n'est pas un problème. Cela a commencé justement lorsque j'avais décidé de devenir un homme politique. Parce qu'il y avait au Congo un grand politique d'opposition là. Voilà. Et dont le président m'a pris pour conseiller. Conseiller en matière de défense et sécurité. Ah, ça m'a causé beaucoup de tort. Voilà pourquoi j'ai connu beaucoup de persécutions de la part du gouvernement en place, qui étaient sûrs, certains. Alors, ils pensaient beaucoup plus à ma formation pour fomenter n'importe quoi. Mais pour eux, ils étaient sûrs que j'avais des militaires que j'ai formés quelque part. Alors, j'ai connu des prisons plus de 3 fois. Ma dernière prison, c'est celle de 92, quand le chef de parti dont j'étais conseiller était devenu premier ministre. Il m'a pris aussi comme son conseiller chargé de défense et sécurité. Et après, il a eu des problèmes. On est venu le chasser, mais moi, on m'a arrêté. J'ai dit, mais pourquoi? C'est lui qui est le chef. Vous l'avez. Mais moi, c'est quoi? Il dit, on m'arrête. J'ai fait presque une année en prison. J'ai passé la moitié de cette prison dans des cachots de la sécurité. Et après, on m'a envoyé dans une prison. On me dit pas pourquoi on m'a arrêté. On ne me juge pas. Je suis là. Et quand j'arrive. Quand j'étais encore au cachot là, de Sennery, il y avait 3 autres prévenus arrêtés. L'un d'eux était un colonel que je connaissais, mais qui n'était plus dans l'armée. Et puis il y avait des autres. Et ces gens-là qui m'interrogeaient, m'interrogeaient toujours la nuit. À minuit, on vient me chercher pour m'interroger. Et quand j'arrive là, j'ai dit non, 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 j'ai sommeil, je ne peux pas, non, non, je ne peux pas parler. Est-ce que vous pouvez m'appeler encore demain? Donc, je n'ai jamais répondu à aucune des questions la nuit. Et cette nuit-là, l'autre nuit, on m'appelle, je trouve le gaillard très content de lui-même, hein, mais c'était la nuit, il était en train de regarder par la fenêtre. Moi qui étais assis sur sa table, je vois plusieurs cartes militaires là. Je commence à regarder, je regarde. Je regarde une autre carte et je trouve que un des gaillards qui était au cachot là, avec moi, c'était un capitaine de l'armée de renseignement. Donc, il était là pour me surveiller, moi. Je ne savais pas. Alors, j'ai voulu faire comprendre à l'autre que je suis au courant. J'ai dit, ah, mais voilà, ça, c'est leur homme. Hein. Il dit, quel homme? Je dis, mais celui-ci. Ah, mais qui vous a donné l'autorisation d'aller fouiller sur mon bureau? J'ai dit, non, non, vous êtes un homme bien. Vous avez voulu me faire voir qu'il y a une taupe auprès de moi. Je vous remercie beaucoup, vous êtes un révolutionnaire. Alors il a pris peur. Il m'a dit, allez, sortez, sortez. Je suis sorti. Et le lendemain, j'ai appelé le capitaine. J'ai dit, capitaine, viens ici. Ah, non, mais capitaine, comment? J'ai dit, oh, tu es un capitaine de renseignement. C'est moi, tes gens t'ont brûlé. Hein? Maintenant, tu dois me dire la vérité. Si tu ne me dis pas la vérité, demain, tu n'as pas de femme, tu n'as pas d'enfant. On va les tuer. Évidemment, je n'avais pas de moyens pour les tuer. C'était mon moyen pour exercer une pression sur lui. Alors, il accepte. Mais je ne suis pas seul, nous sommes à trois. Bon, c'est comme ça que j'ai découvert que j'étais suivi. Mais quand on me transfère dans la prison, on vient me proposer quelque chose. Le président dit, tu quittes le parti où vous êtes, et puis il vous libère, et il va vous restituer, parce qu'on m'avait quand même confisqué certains de mes biens. Moi, j'ai dit, mais écoute, moi, je suis prisonnier, et un prisonnier n'est pas libre, et je ne peux prendre une telle décision. Bon, attendez, si je ne meurs pas en prison, comme ça, vous allez me demander ça. Et dans une semaine, ils ont mis en place un système pour me libérer. Pour m'accorder une libération provisoire, ah non, conditionnelle. On m'a libéré. Et une fois libéré, ils sont venus. Maintenant, tu disais que tu vas répondre quand tu seras libre. Tu es libre maintenant. Il dit, bon, écoutez, il y en a en prison quand même. Laisse-moi me reposer un petit peu, tout ça. Une semaine après, ils sont revenus. J'ai dit, non, je ne quitte pas. Hein? Vous avez menti? Vous allez voir. J'ai dit, mais si vous dites encore ça, moi je vais vous déposer une plainte contre vous pour menace de mort. Ils sont partis. Ah, ça n'a pas duré. Et c'est à ce moment-là qu'on a organisé une équipe de militaires qui est arrivée chez moi. À peine sorti de la prison, je suis sorti de la prison au mois d'août 93, au mois de septembre, le 23 septembre, on m'a envoyé une équipe pour m'assassiner chez moi. Et quand ils sont partis, ils m'ont laissé pour mort. En fait, j'étais pas beau à voir. Maintenant, je ne sais pas si je suis encore beau. Bon. Mais ce jour-là, je n'ai pas senti d'autres blessures, mais la blessure, la balle qui m'ont logé dans les genoux droit ici, a broyé complètement mon genou et je suis tombé. Et alors j'ai joué le mort. Quand je suis tombé, je n'ai pas bougé. Je les ai entendus dire, bon, voilà, maintenant il est mort. Bon, il est mort. Alors, ils ont pris des histoires, des vieux postes de télévision, des histoires qui étaient dans la maison, ils ont amené, je n'ai pas compris pourquoi. Alors, on m'a transporté à l'hôpital. Avant d'arriver à l'hôpital, j'étais évanoui parce que je perdais beaucoup de sang. Heureusement, je suis tombé sur les gens qui me connaissaient bien, qui connaissaient aussi mon parti et qui étaient pour ce parti-là, le médecin. Parmi eux, il y avait même mon propre cousin, un chirurgien. Ils m'ont admis dans cet hôpital, mais ils n'ont pas marqué mon nom par mesure de prudence. Et je vais apprendre plus tard, parce que parmi les gens qui étaient venus chez moi, il y avait mon voisin. Ah, lui, je l'ai reconnu, lui, parce qu'ils étaient cagoulés, mais moi, lui, j'ai cogné parce que je n'avais rien d'autre. J'ai lutté avec les chaises de table à manger. Je lui ai cogné une chaise, et la cagoule est tombée. J'ai dit, c'était lui. Nous sommes vus comme ça. J'ai dit, mais toi, alors c'est lui qui donne l'ordre. Ah, achevez-le. Mais j'ai compris pourquoi il était là. Plus tard, on m'expliquera que il était allé voir les gens de sécurité pour leur dire, bon, si lui, il refuse de quitter, parce qu'il est en difficulté, il n'a plus d'argent. Si vous donnez l'argent, on va lui donner l'argent, il va accepter. Il paraît qu'on lui aurait donné de l'argent, qu'il m'a jamais remis. Et comme je ne faisais pas la volonté du pouvoir, et c'est à lui qu'on avait donné l'argent, on lui a dit, toi, tu vas être chef de cette mission, parce que le type-là doit mourir. Évidemment, je ne suis pas mort. Et 48 heures après, lui-même a été assassiné dans sa propre maison. Parce que quand ils sont partis, ils ont donné les ordres en disant il est mort. Mais 48 heures après, c'est l'Amnesty International qui déclare que, qui annonce la nouvelle que j'étais attaqué chez moi et je suis entre la vie et la mort. On dit, mais tiens, le type que vous avez dit qu'il est tué, il est entre la vie et la mort. Mais si jamais il ne meurt pas, il t'a vu, toi. Donc, suivant la filiale, on va découvrir d'où il est venu. On l'a assassiné 48 heures après. Bon, c'est dans ces conditions-là, à l'hôpital où j'étais, que certaines chancelleries de la place qui connaissaient bien que j'étais persécuté d'une manière régulière là-bas, ils m'ont demandé, les démarches étaient là. Mais j'ai choisi la Suisse. Je ne sais pas pourquoi. Mais j'ai choisi la Suisse. Mais après, principalement, je ne pouvais pas aller aux États-Unis. Je ne pouvais pas aller en Belgique non plus parce que je pensais que ces gens-là étaient de mèche avec le gouvernement de Mobutu. Et puis les Américains me connaissaient bien. Chez eux, ils m'ont traité de socialisant quand j'étais là. C'est l'ambassadeur suisse qui me dira un jour, voilà, mon pays vient de vous accepter comme réfugié. J'étais encore au Congo, à l'hôpital. Alors l'ambassadeur a dû ranger ma fuite de Kinshasa vers ici, via Brazzaville, parce que je ne pouvais pas prendre l'avion à partir de Kinshasa. Je suis allé à Brazzaville. La sécurité était déjà au courant parce que parmi les organisations des droits de l'homme qui étaient à Kinshasa, il y avait une qui était pour le pouvoir en place. Et malheureusement, ils avaient toute l'information sur moi. Parce que ma valise est arrivée à Brazzaville, ma valise où il y avait mes papiers de voyage, mes passeports et tout ça. J'ai déposé ça à l'ambassade. L'ambassade a envoyé ça au Gabon. Et de Gabon à Brazzaville. Donc je devais récupérer ça chez le consul de Suisse à Brazzaville. Et l'Amnesty International avait envoyé 5 000 dollars pour moi, qui étaient consignés à Caritas Congo. Et il y avait ici en Suisse une plateforme des droits de l'homme qui s'appelait Plateforme Zaïre Suisse, où il y avait une religieuse, Sœur Denise, qui était à Lausanne, qui travaillait là-dedans. Tous ces gens étaient en contact avec moi, et grâce à eux aussi, je pense qu'ils ont fait trop de bruit chaque fois qu'on m'arrêtait. Alors, Sœur Denise, connaissant que j'étais admis ici, il a sollicité cette aide de la part de l'Amnesty International qui lui a donné 5 000 dollars qu'il a envoyé à Brazzaville pour moi. Mais les mouchards de cette organisation des droits de l'homme congolaise avaient aussi cette information. Donc ils ont mis en place un système pour que je ne puisse pas quitter Brazzaville. Ils devaient récupérer ma valise, ils devaient aussi prendre l'argent qui était envoyé pour moi. Et ce colonel-là, parmi les trois qui étaient avec moi en prison, il a fait une fausse procuration à mon nom et il a récupéré cet argent. Et il est allé voir les consuls pour dire, bon, je suis venu chercher la valise de Mbaye Kalombo. Alors, ambassadeur à Kinshasa et moi, nous savions que ce colonel, c'était un type du pouvoir. Et les instructions ont été données au consul à Brazzaville de ne pas remettre ma valise à personne sauf à moi. Et c'est comme ça qu'on ne lui a pas remis ça. Et le consul va me dire, est-ce que vous connaissez un type? Moi, je dis, oui, je le connais, c'est mon ami. Il dit, c'est ton ami? Je dis, oui. Alors il m'explique, mais il m'a donné un dicton. Et si vous avez votre poulailler plein de poules, est-ce que vous pouvez permettre que un renard rentre dedans? J'ai dit non, je n'aurai plus de poules. Mais oui, c'est ton ami là, il est venu chercher ta valise ici. Bon, bref, aller à Brazzaville pour avoir le suicide parce qu'il venait une semaine à Brazzaville, une semaine à Kinshasa. Il n'est pas venu cette semaine-là à Brazzaville. Donc je devais encore rester avec une plaie de mon genou qui n'était pas soignée. Alors l'ambassadeur me dit, non, Monsieur Mbaye, vous devez revenir à Kinshasa, vous prendrez votre avion ici, si on vous arrête, on va m'arrêter. J'ai dit, non, 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 vous avez des immunités diplomatiques, on ne vous arrêtera pas. Finalement, on a mis en place une stratégie. L'avion qui était à Kinshasa, 30 minutes avant l'embarquement des passagers qui étaient là, on m'a transporté de Brazzaville dans un petit porteur. On m'a amené jusqu'à Kinshasa. On a dit aux gens de Kinshasa, nous avons notre passager. On a donné un faux nom qui est ici. Il doit aller en Suisse parce qu'il est malade. Comme il n'y a pas d'avion ici, il nous l'a envoyé à Kinshasa. Donc, j'étais considéré comme un Brazzavillois. Et je suis entré dans cet avion par cockpit. Ce sont les hôtesses qui étaient informées qui sont venues me chercher pour m'amener dedans. Et comme ça, je suis arrivé ici à Genève, de l'aéroport à l'hôpital cantonal. Voilà. J'ai été soigné pendant plus de 15 ans ici. Et la dernière intervention était intervenue en 2009, alors que je suis arrivé en décembre 2000, mille, non, 93. Longtemps. Ma jambe droite ici était complètement détruite, était courbée. Je boitais beaucoup. Mon médecin me dit, Monsieur Mbaye, on ne peut pas opérer maintenant, il faut attendre. Puis à un certain moment, il me dit, on va vous opérer en 2009, mois de décembre. Alors il me dit, je vais essayer de redresser un petit peu la jambe. Bon, je crois peut-être que je vais arriver à 60 ou 60%. Je lui dis, mais si vous arrivez à faire ça à 40%, je serais déjà content. Mais quand il a fait, je ne sais pas si vous remarquez, quand je marche, je suis en train de boiter ou quoi. Ah, mais voilà, donc il est allé au-delà de 60%. Et il est allé, non, j'ai dit, Dieu a voulu que ce travail soit bien fait. Et voilà, un petit, petit peu. Quand je suis arrivé là, je crois que je vais rester toute ma vie reconnaissant au gouvernement suisse, au gouvernement fédéral, le gouvernement de Genève. Parce qu'avant même que je n'arrive ici, j'étais étonné quand je suis sorti de l'hôpital, on m'a donné un studio en face de plein palais. Waouh! Je suis là. Et à midi, je vois venir quelqu'un. Il dit, Monsieur Mbaye, moi je suis votre correspondant à la Croix-Rouge genevoise. C'est votre. Nous sommes chargés pour vous occuper de vous. Et voilà. Est-ce que vous voulez signer ce document? Je dis, mais pourquoi? Ah non, parce que nous avons ouvert un compte ici pour vous. Mais maintenant, il faut que vous signiez pour que ça soit reconnu comme votre compte. Je dis, mais quel compte? Ah non, quand vous avez été admis à l'asile, chaque année, on a envoyé votre argent chez nous et nous, on le mettait en compte. Argent? Bon, d'accord. J'ai signé. Le lendemain, il est revenu. Il dit, tu dois encore signer ça pour votre carte bancaire. Je ne connaissais pas ce que c'est carte bancaire. Alors, il devait m'expliquer, si vous avez besoin d'un peu d'argent, vous allez mettre dedans. Vous allez mettre dedans. Donc, ça, c'est le gouvernement suisse qui a fait ça. Jamais, je leur serai toujours reconnaissant pour ça. Voilà, un petit peu, quelques points de mon parcours. Parce que si je devais tout raconter, nous n'avons pas beaucoup de temps. Vous m'avez donné 20 minutes, je pense que je ne suis pas allé... Bon, alors, mais de tout ça, quelle est la leçon qu'il faut retenir de ça? C'est quoi? Ce que j'ai oublié de vous dire, c'est que j'ai décidé de partir au Congo en 2008. J'ai dit au gouvernement suisse, je remets mon statut de réfugié. Oui, d'accord. Alors, je dis, bon, ils me font un passeport congolais pour aller au Congo. La fédération m'achète le tout premier passeport congolais. Ah, ils me disent, tu ne dois pas aller au Congo. Je dis, mais mon bout est parti. Non, mais ce n'est pas possible. Je dis, laissez-moi aller voir si ça ne va pas. Et puis, je reviendrai vite. Et quand je suis allé, j'ai été victime deux fois. On m'a tendu un piège sur la rue. La nuit... Bon, je revenais d'un deuil. Alors là, on m'a attaqué, on m'a blessé, mais j'ai eu quand même le moyen d'échapper avec l'aide de Dieu. La deuxième attaque, ça c'était, je revenais aussi la nuit, à 100 mètres de chez moi, il y avait une embuscade là, des militaires, les hommes armés, je pense que c'était des militaires. Alors, il y en avait à ma gauche, et à ma droite et devant. Mais arrêtez-vous. Et comme je les ai vus armés, il dit non, je ne sais pas, ils sont très nombreux, qu'est-ce qu'ils veulent faire? Une idée me passe par terre, je me suis souvenu de ma formation militaire à ce moment-là. J'ai dit bon, si la seule chance que j'ai, je dois rouler sur tout ce qui se trouve à ma gauche, parce que sinon, ils vont m'avoir. Parce que c'est du côté du chauffeur. Excusez-moi, mais c'est ce que j'ai fait. Et à ce moment-là, les autres ont tiré le pare-brise de ma voiture, les capots, tout était complètement bousillé. Mais je suis quand même rentré et arrivé chez moi. C'est un sop. Je n'avais même pas une petite crénature. Tout ça, la leçon, c'est que nous qui sommes devenus chrétiens, nous avons toujours l'habitude de demander des choses à Dieu. Mais moi je sais que ce que nous demandons, n'a rien à voir avec ce que Dieu nous donne. Il nous a toujours donné un peu plus. Parce que quand j'ai appris que un des officiers est venu me voir à Kinshasa pour me dire, mais tiens, vous, vous êtes sorcier. J'ai dit, oh, oh, ça, c'est une vieille histoire, là. C'est... Non, non, mais c'est parce que on ne comprend pas. Il m'a avoué que lui, il était désigné pour être parmi ceux qui étaient, ceux qui devaient m'assassiner. Il avait une mission, il n'est pas venu. Mais il m'a avoué que plusieurs fois, ils m'ont attendu sur la rue pour m'assassiner. Et chaque fois, on apprenait que je suis entré chez moi. Mais ça, ce sont des trucs, on ne peut pas penser. Est-ce que nous, tout simplement, le fait de dire à notre Dieu le matin, Seigneur, sois mon guide et mon protecteur, et écarte sur mon chemin tous les obstacles que l'ennemi peut m'étendre. Cette prière-là est attendue par notre Dieu. La chanson de tout à l'heure, Dieu, Jésus est notre abri, hein, elle est réelle. Ça, ce sont des choses palpables. Moi, j'ai vécu ça. Et il n'y a pas d'autres explications que la protection de Dieu. Alors, restons fidèles, comme on a chanté tout à l'heure. Et j'aimerais bien que... je remercie tout d'abord l'Église qui a pris tout ce temps-là pour m'écouter. Mais je demanderais peut-être... est-ce que nous pouvons chanter un peu la dernière chanson, l'agneau de Dieu. L'agneau de Dieu. Avec ça, je vais vous remercier. Je vais prendre ma place. Non, moi je prends ma place maintenant. Et puis nous allons chanter ça. Et je vous remercie tous de votre attention. Et je remercie le bon Dieu.